Pourquoi Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington, Chérubin Dorsil et Nathalie Barge.
Bonsoir, bienvenue à l'édition du 2 juin 2015, à la une ce soir.
Bientôt un nouveau président à la tête de la FIFA, Sepp Blatter, récemment réélu pour un cinquième mandat, convoque des élections anticipées pour un nouveau président et ce dans le plus bref délai.
Je continuerai d'exercer mes fonctions en tant que président de la FIFA, mal jusqu'à l'organisation de ces prochaines élections.
RDC, l'archevêque de Kinshasa, reçu aujourd'hui par le président Kabila, n'est pas preneur pour animer le futur dialogue national.
Donc moi, j'ai trop à faire au niveau de Rome et au niveau de la ville de Kinshasa. Je n'aurai pas le temps de m'en occuper.
Monseigneur Laurent Monsengwo au micro de Christian Lusakweno de Top Congo FM.
Reporters sans frontières dénonce la décision de l'autorité de régulation des médias rwandaises de suspendre indéfiniment les émissions de la BBC en Kenya-Rwanda.
Conférence internationale sur l'Irak et la Syrie à Paris. Les participants ont exprimé leur confiance dans la coalition contre le groupe État islamique.
Et bien sûr, nous aurons l'économie et les sports, mais d'abord le journal.
Coup de tonnerre à la FIFA, Sepp Blatter annonce son départ prochain de l'instance dirigeante du football mondial. Le président de la FIFA, qui vient à peine d'être réélu pour un cinquième mandat, a surpris l'opinion en déclarant qu'il a demandé au comité exécutif de convoquer un congrès extraordinaire dans les plus brefs délais afin d'élire un nouveau président. Monsieur Blatter a assuré qu'il ne sera pas candidat. On l'écoute.
C'est pourquoi je remettrai mon mandat à disposition lors d'un congrès électif extraordinaire. Cette décision prendra effet le plus tôt possible, à savoir la date à laquelle un nouveau président pourra être choisi par le congrès de la FIFA pour me succéder. Je continuerai d'exercer mes fonctions en tant que président de la FIFA, normal jusqu'à l'organisation de ces prochaines élections.
C'était Sepp Blatter, le président de la FIFA.
L'actualité en Afrique. Au Burundi, c'est vendredi en principe que doivent avoir lieu les élections. Un report n'est pas à exclure, comme l'espère la communauté internationale. En attendant, les manifestations ont repris ce mardi dans le pays. Nicolas Pinault nous en dit plus.
Oui, la police a ouvert le feu ce mardi à Bujumbura, où des manifestants sont à nouveau descendus dans la rue après la trêve observée lundi. Des témoins ont rapporté à l'agence France-Presse que les policiers déployés ont tiré à vue dans les quartiers les plus chauds de la contestation, pour empêcher le regroupement des manifestants qui avaient pour objectif, selon l'un des leaders du mouvement anti-troisième mandat, Pacifique Nini Nahazwe, de se rendre au centre-ville. Ces incidents ont eu lieu à Chibitoke, Musaga ou encore Nyakabiga. Sur le plan politique, le gouvernement n'a toujours pas annoncé le report des élections, contrairement aux demandes des chefs d'État de l'Afrique de l'Est qui souhaitent un report jusqu'à mi-juillet. Très en pointe sur la scène internationale contre un troisième mandat, les États-Unis ont de nouveau mis en garde contre une candidature de Pierre Nkurunziza qui menace gravement la stabilité du pays et est clairement en violation de l'accord de paix d'Arusha, selon le département d'État.
Dans un communiqué, le Fonds d'urgence des Nations Unies dit débloquer 15 millions de dollars pour soutenir les personnes fuyant le Burundi. Depuis le début de la crise en avril, plus de 70 000 personnes, dont de nombreux enfants, ont fui vers les pays voisins, principalement en Tanzanie et au Rwanda.
Dans le Nord Kivu, en République démocratique du Congo, au moins 2 personnes ont été tuées la nuit dernière lors d'une incursion d'hommes armés dans l'aéroport de Goma. Eddy Isango.
Selon le gouverneur du Nord Kivu, Julien Paluku, les hommes armés voulaient voler des marchandises ou bien viser des dépôts de munitions. Selon lui, des échanges de tirs avec l'armée ont fait au moins 2 morts, un assaillant et un soldat. Le gouverneur a précisé que les militaires ont poursuivi les assaillants sous une forte pluie. Il y a eu plusieurs blessés et 3 assaillants ont été capturés. Pour sa part, un porte-parole de l'armée à Goma, Guillaume Djike, n'a pas voulu donner des bilans des victimes du côté des FRDC. Mais un habitant du quartier Murara, près de l'aéroport, a dit à l'AFP avoir vu ce matin les corps de 2 soldats gisant à terre. Un officier de la garde républicaine a dit, sous couvert d'anonymat, que 4 militaires ont été tués.
Suite des consultations à Kinshasa autour du président Joseph Kabila sur le futur dialogue pour un environnement apaisé lors des prochaines élections, après avoir reçu la conférence épiscopale nationale du Congo, le chef de l'État congolais s'est entretenu ce mardi avec l'archevêque de Kinshasa, Monseigneur Laurent Monsengwo, au micro de Christian Lusakweno de Top Congo FM, notre station partenaire à Kinshasa.
On a encore le temps d'ici vendredi et on saura exactement ce que l'on fait.
Monseigneur Mosengo, vous l'avez dit, la Cinco a été reçue déjà. Pourquoi, après la Cinco, recevoir l'archevêque de Kinshasa? Est-ce que vous avez une mission spéciale? Aurez-vous un rôle particulier dans ce dialogue?
Non, pas forcément. On reçoit l'archevêque de Kinshasa parce qu'on est à Kinshasa. Et l'archevêque de Kinshasa a un rôle particulier à jouer dans l'Église catholique. C'est pour cela que nous n'avons pas parlé que du dialogue. Nous avons aussi parlé de ce dont nous avions parlé précédemment, les accords concordataires de notre pays avec le Saint-Siège. Et nous avons aussi parlé de notre radio-télévision qui a été fermée pendant tout un temps. Nous demandons qu'on rouvre cette radio.
Justement, certains parlent de personnalité neutre pour animer ce dialogue. Pourriez-vous être cette personnalité neutre?
Donc moi, j'ai trop à faire au niveau de Rome et au niveau de la ville de Kinshasa. Je n'aurai pas le temps de m'en occuper.
C'était l'archevêque de Kinshasa, Laurent Monsengo.
Les présidents français et nigériens ont appelé à la poursuite de la coopération régionale contre Boko Haram. Ils ont aussi appelé les rebelles Touareg du Mali à signer l'accord de paix d'Alger. Idriss Fall.
Après un entretien à Paris, François Hollande et Mahamadou Issoufou ont appelé les différents groupes armés qui ne l'ont pas encore fait à signer sans délai l'accord d'Alger. Cet accord a été signé par le gouvernement malien, mais pas encore par les rebelles de la coordination des mouvements de l'Azawad. Les deux chefs d'État ont également appelé à une poursuite de la coopération régionale dans la lutte contre Boko Haram. Une opération militaire lancée depuis février par le Niger, le Tchad et le Cameroun a permis de reprendre plusieurs localités nigérianes qui étaient aux mains des djihadistes. D'ailleurs, Mahamadou Bouhari, le nouveau président du Nigeria, doit effectuer jeudi sa première visite à l'étranger, à Niamey, puis au Tchad. Il devrait aussi se rendre en Allemagne pour assister au sommet du G7.
Dans le nord-est du Nigeria, un kamikaze a attaqué un marché de bétail à Maïdougouri, faisant plus de 20 morts. Selon Reuters, qui cite des sources hospitalières, l'explosion aurait fait près de 50 morts. Mais le premier bilan de la Croix-Rouge s'établissait à 13 morts et 24 blessés. Plus tôt ce matin, les islamistes armés ont attaqué Maïdougouri avec des lance-roquettes.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Dans le reste du monde, une conférence internationale sur l'Irak et la Syrie s'est tenue aujourd'hui à Paris. Les participants, représentants de 24 pays et organisations internationales, ont exprimé leur confiance dans la coalition contre le groupe État islamique, tout en réaffirmant le besoin d'équipement et de formation pour les troupes. Ici à Kaba.
Prenant la parole par téléphone, le secrétaire d'État américain John Kerry a mis l'accent sur l'aide américaine à l'Irak suite à la chute de Ramadi aux forces djihadistes. Le secrétaire d'État adjoint américain, Anthony Blinken, a déclaré lors d'une conférence de presse avec le premier ministre irakien, Haider al-Abadi, et le ministre français des Affaires étrangères, Laurent Fabius,
« In Iraq, right now, we have the right strategy. »
En Irak, nous avons maintenant la bonne stratégie. Une combinaison de frappes aériennes, de formation sur le terrain et d'assistance en équipement à nos partenaires locaux. Cependant, le chef du gouvernement irakien a dit que ses forces ne reçoivent pas assez de soutien de la coalition internationale. La conférence de Paris a également reconnu que la lutte contre le groupe État islamique passe aussi par une transition politique en Syrie.
24 touristes irakiens ont péri et 16 autres ont été blessés mardi dans un accident de la route dans le nord de l'Iran. C'est ce que rapporte l'AFP citant la télévision d'État iranienne. Les victimes de l'accident sont les passagers du bus qui transportait 25 femmes et 5 hommes et 10 enfants, tous irakiens selon un responsable sur place.
En Chine, plus de 400 personnes sont portées disparues après le naufrage d'un navire de croisière. L'étoile de l'Orient a sombré hier soir dans le fleuve Yangtze. Jacques Aristide.
Une véritable course contre la montre est engagée ce mardi pour retrouver d'éventuels survivants alors que les équipes de sauvetage bravaient le mauvais temps. L'agence Xinhua rapporte qu'une quinzaine de passagers ont été secourus 24 heures après la catastrophe et seuls 5 corps ont été retrouvés. Des personnes étaient prisonnières sous la coque du navire renversé, d'après les secouristes, qui affirment avoir entendu des coups depuis l'intérieur de l'épave. La cause exacte du naufrage n'était pas encore connue. Le capitaine et le chef mécanicien ont déclaré aux médias officiels que le bateau avait été pris dans une tornade. Le ministère chinois des Transports a précisé de son côté que le navire n'était pas surchargé. Le bateau qui transportait au total 450 personnes assurait la liaison entre deux anciennes capitales chinoises, Nankin et Chongqing.
Les forces de sécurité du Hamas ont tué ce mardi un chef salafiste dans la bande de Gaza. Youssef Al-Anar, âgé de 27 ans, a été tué chez lui à Sheikh Redouane, dans le nord de la ville de Gaza, dans un échange de tirs avec les forces de sécurité, indique l'AFP.
Le ministre américain de la Sécurité intérieure, Jay Johnson, a annoncé des mesures immédiates pour renforcer le contrôle des passagers et des bagages dans les aéroports aux États-Unis. Jay Johnson n'a pas révélé la teneur des failles mises au jour dans la sécurité aéroportuaire. Cependant, souligne l'AFP, des médias américains ont évoqué des armes et explosifs factices qui ont pu être introduits par des agents sous couverture au point de contrôle de la TSA. Son directeur par intérim a été réaffecté immédiatement. Et le ministre a exhorté le Sénat à confirmer rapidement le prochain responsable de l'agence fédérale, le vice-amiral Pete Neffinger, choisi récemment par le président Barack Obama.
Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Un coup d'œil sur l'actualité économique en Afrique et ailleurs, c'est la Minute Éco ce soir avec Félix Yepassi Zembrou.
Responsables politiques et responsables du monde des affaires se réunissent du 3 au 5 juin au Cap, en Afrique du Sud, pour le Forum économique mondial sur l'Afrique. Réinventer l'Afrique, tel est le thème du forum cette année. Il s'agira pour les participants de discuter des moyens de stimuler la croissance économique en Afrique. Un réseau continental des affaires CBN, destiné à accélérer le rythme des investissements du secteur privé dans les infrastructures régionales de l'Afrique, a été mis en place mardi à l'initiative de Top Global et de l'Association des présidents-directeurs généraux africains. Selon un communiqué publié mardi par le NEPAD, nouveau partenariat pour le développement de l'Afrique, la mise en place de ce réseau officialisé en marge du Forum économique mondial sur l'Afrique est l'une des recommandations du sommet de Dakar sur le financement des infrastructures organisé par le président sénégalais Macky Sall. Les dernières estimations du taux de croissance 2015 sont maintenues à 10,3% contre 9,5% réalisé en 2014 en République démocratique du Congo, indique la primature dans un communiqué ayant sanctionné une réunion restreinte du gouvernement présidée lundi à Kinshasa par le Premier ministre Augustin Matata Ponyo. Les cours du pétrole ont ouvert en hausse mardi à New York, profitant d'un affaiblissement du dollar, mais les investisseurs restaient prudents à l'approche d'une réunion de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole, OPEP.
Merci Félix Yepassi Zembrou pour la Minute Éco.
Passons tout de suite à la page sport avec Bagassi Koura. Salut Bagassi.
Oui, bonsoir Chérubin, bonsoir à tous.
La nouvelle du jour vient de la FIFA.
Oui, le président de l'institution mondiale de football, Sepp Blatter, a annoncé il y a un instant sa démission de la présidence de la FIFA, la suite de nombreux scandales financiers et de corruption qui éclaboussent l'institution. M. Blatter, âgé de 79 ans, poste depuis 98, a indiqué qu'il convoquait un congrès extraordinaire où il remettra en jeu son mandat et au cours duquel son successeur sera élu. Façon de dire démission sans dire le mot.
Il ne sera pas candidat, il l'a dit. Et concernant la corruption à la FIFA, Bagassi, le président de la CAF dit qu'il n'est pas inquiété.
Oui, en provenance de Zurich, le président de la Confédération africaine de football a déclaré à la CRTV Cameroun Tribune n'avoir jamais été inquiété par qui que ce soit lors de son séjour en Suisse, ni par les autorités politiques, ni par les autorités judiciaires, ni par la police helvétique, a déclaré Issa Ayatou. Personne ne m'a rien dit, ni contacté pour des interrogatoires, mais à ma grande surprise, j'ai appris que j'étais interdit de sortir du territoire suisse parce que la police est venue me chercher et m'a entendu pendant 9 heures. Personne ne m'a entendu.
Le Ghana a battu l'Argentine, Bagassi, au mondial de moins de 20 ans.
Oui, le Ghana a battu l'Argentine par 3-2 ce mardi à Wellington. Pour le compte de la deuxième journée de ce mondial, les Black Starlets avaient été tenus en échec par l'Autriche dès leur premier match dans ce tournoi.
Voilà pour les sports. Merci, Bagassi Koura.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Nathalie Barge et Chérubin Dorsil, en votre compagnie, place au dossier du jour. Première escale, le Burundi.
En principe, c'est vendredi prochain, donc le 5 juin, que doivent avoir lieu les élections législatives et communales au Burundi. Réunis dimanche en sommet à Dar es Salaam, en Tanzanie, les chefs d'État des pays d'Afrique de l'Est ont demandé un report d'au moins 6 semaines de ces scrutins. Ce report est-il possible? Idriss Fall a joint Prosper Ntahowamiye, chargé de communication de la CENI à Bujumbura.
D'abord, ce n'est pas la CENI qui va faire le report puisque l'acte de confirmation de cette décision relève des compétences du président de la République. Nous, au niveau de la CENI, nous avons fait des propositions compte tenu de la déclaration des chefs d'État de la sous-région de l'EAC. Nous attendons la décision définitive de la part de l'autorité compétente.
Et vous avez fait quelles propositions?
Les propositions sont des propositions, ça ne se dit pas, on attend la décision.
On nous a signalé aussi que 2 membres de la CENI ont démissionné. Qu'est-ce qu'il en est?
2 membres de la CENI ont démissionné. Maintenant, on a eu les lettres de démission. Il s'agit de Mme Space Caritas Ndironkeye, qui était vice-présidente de la CENI, et Mme Illuminata Ndawa Agamye, qui est commissaire chargée des finances et de l'administration. Maintenant, confirmé et attesté, les 2 dames ont bel et bien démissionné.
Est-ce qu'elles ont été remplacées?
Pas encore, mais les procédures de remplacement, je pense, sont en cours.
Est-ce que techniquement la CENI peut organiser des élections d'ici vendredi?
Non, on attend la décision puisqu'il y a une recommandation des chefs d'État de la sous-région et qui visiblement va être tenue en considération. Nous attendons d'un moment à l'autre, aujourd'hui, demain ou après-demain, la décision de l'autorité compétente.
Est-ce que tout le matériel électoral a pu être distribué?
Le matériel électoral est disponible.
Apparemment, vous n'aviez pas d'argent, non? Ou bien l'argent est venu?
Chez nous, il n'y a pas un problème d'argent puisqu'on appuie le gouvernement et le gouvernement cherche cet argent.
Qu'en est-il des participants? Est-ce que tous les partis politiques ont déposé leur candidature?
Pas tous les partis politiques. Maintenant, nous avons 8 candidatures pour les présidentielles.
Et qu'en est-il des législatives et communales alors?
Non, les listes sont clôturées depuis longtemps. On a, pour les communales, si j'ai bonne mémoire, on a 11 listes de partis politiques. 3 listes de coalition, je pense, et 3 listes des indépendants.
Et pour les législatives?
Les législatives, c'est presque la même chose. 10 listes pour les partis, 3 pour les coalitions et 3 pour les indépendants. Oui, le taux de représentation, de couverture n'est pas le même, ça varie d'un parti à l'autre.
Est-ce qu'il y a vraiment des chances à ce que ces élections soient reportées de 6 semaines?
C'est possible, c'est une décision politique.
Répondant aux questions d'Idriss Fall, Prosper Ntahowamiye, chargé de communication de la CENI à Bujumbura.
Cinq ans, jour pour jour, après la mort du défenseur des droits de l'homme Floribert Chebeya et de son chauffeur fidèle Bazana, l'ONG congolaise La Voix des Sans-Voix, dont il fut le directeur exécutif, réclame toujours justice. Une manifestation a été organisée lundi à Kinshasa sous le thème « 5 ans après votre assassinat, tous unis pour défendre votre cause ». Dolly Befou, l'actuel directeur exécutif de La Voix des Sans-Voix, demande que la lumière soit faite sur cet assassinat et que le corps de Fidèle Bazana soit rendu. Il est au micro de Thierry Kambundi de Top Congo FM, notre station partenaire à Kinshasa.
Nous avons toujours demandé de faire la lumière sur cet assassinat. Faire la lumière, c'est au niveau de la justice, dire pourquoi l'État congolais a organisé, planifié cet assassinat. Pourquoi on devrait assassiner Floribert Chebeya? Qui ont assassiné Floribert? Qu'il puisse préciser tout le monde qui a donné cet ordre-là. Nous savons ces personnes, nous les connaissons bien, mais il faut que la justice puisse le prouver. Il faut que la justice ou l'État congolais puisse dire que c'est X qui a ordonné, c'est Y qui a assassiné. Et l'État congolais nous dit, non, le corps des fidèles, nous l'avons mis à tel endroit. C'est tout ce que nous cherchons jusque maintenant. Oui, je crois que l'État congolais a l'obligation de faire la lumière sur cet assassinat. Parce que c'est son image qui a été ternie. C'est l'État congolais qui choisit ou qui nomme des personnes ou des autorités qui sont irresponsables. Il a le pouvoir, en fait, il a vraiment le besoin de redorer son image qui a été ternie avec cet ignoble assassinat. Le procès se trouve à la haute cour militaire. La haute cour militaire qui est en train d'instruire maintenant ce procès. La dernière audience a confronté les collaborateurs Olivier, monsieur Mouila, qui était venu avec une lettre, mais sa mission était d'identifier Floribert. Nous attendons que la haute cour militaire puisse se prononcer, puisse poursuivre tout le monde. Nous pensons en premier lieu le premier suspect qui est le général John Numbi. Parce que pour nous, c'était lui qui a organisé cela. La justice devrait l'inculper. S'il était quelqu'un d'autre, je crois qu'on ne pouvait pas le laisser comme ça. C'était la première personne qui devrait être arrêtée. Mais voilà, on les laisse libres. On laisse Kenga Kenga.
Est arbitraire, c'est la conclusion d'un groupe de travail des Nations Unies qui s'est penché sur son dossier et a remis son rapport hier lundi aux avocats du fils de l'ancien président sénégalais. L'avocat camerounais Thierry Michel Atangana a passé plusieurs années en détention arbitraire dans son pays. Il a bénéficié des efforts du groupe de travail de l'ONU. Écoutons Maître Atangana au micro de Bega Sikoura.
Le groupe de travail dit que la détention de Karim Ouad est arbitraire dans le sens où il aurait pu pouvoir se justifier étant hors des chaînes de la prison. Donc c'est important. Maintenant, je pense qu'à mon avis, et ce qui revient aussi, c'est que le Sénégal n'a pas répondu dans les délais, dans les éléments d'analyse faits par le groupe de travail. Maintenant, il est demandé au Sénégal de prendre les dispositions nécessaires pour rendre efficace et applicable cette décision du groupe de travail des Nations Unies. Et comme c'est le droit international, tout état de droit ne peut pas rester indifférent sur les recommandations des Nations Unies.
Est-ce que vous avez eu une réponse du gouvernement sénégalais?
Pour le moment, on n'a pas de réponse. C'est tout nouveau. Vous savez, aujourd'hui, la décision a été portée à la connaissance des avocats aujourd'hui. On va laisser le temps de la réflexion pour voir comment le gouvernement va réagir dans les jours qui viennent.
Comment est-ce que ce groupe a été mis en place?
Oui, le groupe de travail est un groupe qui s'occupe de la détention arbitraire. Il est là. Et il s'est saisi des affaires portées par les avocats ou les conseils ou, je dirais, des ONG qui ont besoin d'avoir une autre appréciation qui est différente du droit national.
Et donc là, c'est juste un avis que vous émettez ou...
Le mot avis est avis, d'accord, c'est marqué avis, mais oui. Sachez que c'est un terme diplomatique. C'est une décision de justice, c'est un arrêt en réalité. Mais qui a le caractère d'avis, parce que c'est avis. Mais c'est parce que les éléments, je dirais, quand on constitue le groupe de travail, on a voulu garder le terme avis, mais c'est une appréciation importante, fondamentale, du groupe de travail des Nations Unies sur les détentions arbitraires. Donc dans ces conditions, le groupe de travail bénéficie d'une compétence quasi juridictionnelle. Donc, et c'est un tribunal.
Est-ce qu'il y a un délai pour que le gouvernement sénégalais réponde?
De toute façon, il est constant, par une résolution des Nations Unies, il est constant que tous les États du monde entier doivent participer à l'application des décisions du groupe de travail des Nations Unies. C'est-à-dire, c'est le droit international, même si on dit qu'il n'y a pas de force contraignante, mais la moralité du droit fait que chacun doit respecter les décisions des Nations Unies.
Maître Thierry Michel Atangana, joint à Dakar, au Sénégal.
Jacques Aristide avec vous dans Washington Forum ce jeudi. La FIFA pourra-t-elle redorer son blason après l'annonce choc du départ de Sepp Blatter de la présidence? Son successeur pourra-t-il faire le grand nettoyage après les graves accusations de corruption? Comment vous, en Afrique, réagissez à cette démission surprise de Blatter qui a eu le soutien inébranlable du continent? Un mondial alternatif hors FIFA verra-t-il le jour, même après ces développements inattendus? Vos commentaires sur la page Facebook de VOA Afrique, Washington Forum, ce jeudi à 19h TU.
Le directeur exécutif d'ONU-SIDA, Michel Sidibé, estime que près de 95% des enfants séropositifs en Afrique n'ont pas accès au traitement requis. Monsieur Sidibé est actuellement au Cameroun. Voici un reportage du correspondant de La Voix de l'Amérique au Cameroun, Moki Edwin Kinzeka, repris ici par Michel Joseph.
Selon M. Sidibé, il y a une diminution de presque 60% des cas d'infection chez les enfants de moins de 15 ans. Mais il a précisé que plus de 90% des 3 millions d'enfants vivant avec la maladie sont en Afrique subsaharienne, où l'accès au traitement a été un grand obstacle à la propagation de la maladie.
Nous devons penser au traitement pour les enfants. Il s'agit là vraiment d'un défi majeur pour moi, parce que c'est une phase oubliée. Seuls 6% des enfants ont cet accès, et c'est un problème à travers le continent. Il nous faut une nouvelle approche qui pourrait nous aider à atteindre ces enfants là où ils se trouvent.
L'ONU-SIDA signale dans ses rapports que seuls 24% des enfants qui ont besoin d'un traitement antirétroviral l'ont reçu en 2013, tandis que 190 000 autres mouraient la même année. Et de nombreux autres encore sont morts dans un silence assourdissant dans des régions où le sida reste un sujet tabou, selon M. Sidibé.
Nous faisons un effort pour que les autres pays se joignent à nous afin de transformer cette conspiration du silence et de démontrer que tout le monde y gagne quand on arrête la transmission du virus de la mère à l'enfant. Avoir une génération sans VIH, ce serait certainement l'un des plus grands legs que chacun d'entre nous pourrait donner.
Au Cameroun même, les gens vivant le sida se plaignent des pénuries dans le domaine des traitements antirétroviraux. Miniam Jean, sidéen depuis 15 ans, se plaint spécifiquement du personnel médical.
Nous avons des difficultés parce que pour avoir l'accès au traitement, c'est très difficile parce que quand tu arrives à l'hôpital, on te dit, bon voilà, il n'y en a pas. Ou bien on te dit, bon ok, reviens la semaine prochaine. Tout ça parce que les médicaments n'étaient pas disponibles en place. Mais il ne faut pas dire que c'était la rupture totale. C'était juste des molécules. C'était une molécule qui manquait. Et aussi, lorsque un patient aussi est arrivé, il trouvait que sa molécule, même, il n'y en a pas. Et on est obligé de changer pour lui donner une autre molécule parce qu'il ne faut pas qu'il reste sans avoir les antirétroviraux.
Selon l'ONU-SIDA, c'est en Afrique subsaharienne que l'on a la plus sérieuse épidémie VIH-SIDA du monde, avec quelque 25 millions de patients, soit 70% du total dans le monde.
Salut les amis, ici Roger Moutou sur VOA Afrique. Restez branchés ce soir dans RM Show à 20h, temps universel. Au menu, antenne libre, des sujets débat. RM Show donne la parole aux auditeurs. Vos commentaires sur notre page Facebook, Roger Moutou, La Voix de l'Amérique. Et vos SMS au 225-58-9240. Je répète, 225-58-9240. Ne ratez pas votre émission interactive RM Show chaque soir à 20h, temps universel sur VOA Afrique. Peace Africa!
Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Un rappel de quelques titres.
Bientôt un nouveau président à la tête de la FIFA. Sepp Blatter, récemment réélu pour un cinquième mandat, convoque des élections anticipées et ce, dans les plus brefs délais.
République démocratique du Congo, l'archevêque de Kinshasa reçu aujourd'hui par le président Kabila n'est pas preneur pour animer le futur dialogue national.
Conférence internationale sur l'Irak et la Syrie à Paris, les participants ont exprimé leur confiance dans la coalition contre le groupe État islamique. Voilà, cette édition touche à sa fin. On remercie GLS, Georges Léonard Sagnot, qui a assuré la mise en onde, assisté à la console de Micha Dubinsky. Présentation, Nathalie Barge et Chérubin Dorsil.
Et ainsi va Le Monde aujourd'hui. Retrouvez-nous sur Facebook et notre site internet voafrique.com. Les infos dans une minute.
Écoutez Le Monde aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone. N'Djamena sur 93.1 FM. Kledou FM Bamako.
Raga FM, Goma. 96.5 Fraternité FM, Parakou, Bénin et bien d'autres encore, sans oublier sur Ondes Courtes. Le Monde Aujourd'hui sur VOA Afrique.